l'amour que je fais, c'est contre le bourg. Que je prends la route et que je prends la trille en bout de l'ingoule et je fais semelle. Me v'la pogner si je fais du doute avec un flat sur la conscience. La mise à plein les bras puis les yeux plus gros que la France.
Écoutez CILS FM 107.9 à Victoria.
Le projet CapWest, rendu possible grâce à l'appui financier du Fonds canadien des radios communautaires, vous est présenté par les stations
CFRG 93.1 FM, La Voix des Prairies, Gravelbourg, CHPL 92.1 FM, Plamondon, CIBR Radio Taïga 103.5 Yellowknife
et CILS 107.9 FM Victoria.
Bonjour à tous les auditeurs francophones et francophiles des prairies et de l'Ouest canadien. C'est parti pour une nouvelle édition de votre rendez-vous hebdomadaire Sport et Santé Magazine. Alexis Gagnon avec vous pour la prochaine heure. Merci à tous d'être à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale. Un beau menu tout en variété pour vous encore cette semaine. Dans la portion sport de l'émission, notre chroniqueuse Marie-Hélène Bourret nous parle de la petite dynastie des Harvey, père et fils, qui ont marqué la discipline du ski de fond au Canada. Dans le versant santé, cette semaine, je m'entretiens avec Julie Gagnon qui soulève la question des services souvent essentiels que nos gouvernements délèguent à des entreprises privées. Il sera question particulièrement de la relation entre le ministère de la Santé de Colombie-Britannique et la compagnie américaine Maximus. Il y aura aussi les revues de presse sportives et santé et un petit peu de musique. Bonne émission à tous! Nous allons débuter cette édition de Sport et Santé Magazine en mouvement et en performance avec la revue de presse sportive hebdomadaire. Excellente nouvelle pour le Canada dans la discipline du ski alpin. Éric Gay est sacré champion du monde du Super G. Éric Gay est champion du monde à nouveau, c'est ce qu'on peut lire dans le journal La Presse et dans de nombreux autres médias au Canada et dans le monde. 6 ans après son titre en descente, le skieur de Mont-Tremblant au Québec a remporté la médaille d'or du Super G des championnats du monde de Saint-Moritz il y a quelques jours. En cette journée historique pour le ski canadien, Éric Gay était accompagné sur le podium par son compatriote Manuel Osborne Paradis, médaillé de bronze surprise. C'est le Norvégien Kjetil Jansrud, champion olympique et favori, qui a gagné la médaille d'argent. Cette victoire d'Éric Gay survenait 12 jours après sa chute spectaculaire à la descente de Garmisch. Victime d'un sévère hématome au muscle fessier, l'athlète de 35 ans avait dû rater la deuxième descente le lendemain. Parfait sur les plans tactiques et techniques sur la piste de Corviglia, Éric Gay a accru son avance en fin de parcours pour devancer le Norvégien par 45 centièmes de seconde. Dossard 26, Manuel Osborne Paradis, quant à lui, qui fêtait son 33e anniversaire de naissance, a délogé le Norvégien Alexander Amod Kilde de la troisième marche du podium, arrêtant le chrono à 51 centièmes derrière Éric Gay. Donc Éric Gay, rappelons-le, avait gagné l'or en descente aux Mondiaux de Garmisch en 2011. La descente de Saint-Moritz, la station suisse où Mélanie Turgeon, la skieuse canadienne, avait elle aussi triomphé en 2003, est programmée le samedi 11 février. Et d'ailleurs, à propos de Mélanie Turgeon, on a une réaction de sa part suite au sacre d'Éric Gay. pied en super G. Elle a donné ses commentaires à l'agence France Presse. C'est rapporté par le journaliste Pierre Durocher dans le Journal de Montréal. La victoire d'Éric Guay a rappelé de très bons souvenirs à Mélanie Turgeon, qui avait été sacrée championne du monde en descente en 2003 à Saint-Moritz. Je suis fort impressionné par ce que vient de réaliser Éric Guay comme exploit lorsqu'on pense qu'il s'est cassé la gueule il y a moins de 2 semaines lors d'une violente chute à Garmisch, a commenté Turgeon lors d'une conversation téléphonique avec le journaliste. Ce genre de chute a de quoi ébranler tout skieur, a-t-elle poursuivi. Éric aurait pu se faire très mal et il est difficile de chasser cela de son esprit lorsqu'on reprend l'entraînement. Éric Guay est père de famille, il ne rajeunit pas et il aurait pu décider de jouer la carte de la prudence, a continué Mélanie Turgeon. Au contraire, il a attaqué le parcours de Saint-Moritz sans afficher la moindre crainte et il a été récompensé avec cette éclatante victoire devant le grand favori norvégien. C'est comme si rien ne s'était passé il y a une quinzaine de jours à Garmisch. Donc ça, c'est le commentaire de l'ancienne championne Mélanie Turgeon. Le skieur favori de Mélanie Turgeon à l'époque de sa carrière était le Suisse Didier Kuch, qui a connu du succès jusqu'en fin de carrière. Éric Guay me rappelle Didier Kuch, a-t-elle commenté dans cette interview. Il a acquis cette belle maturité, cette confiance en lui qui lui permet de réaliser de si belles performances tard dans sa carrière. Je suis vraiment heureuse pour lui. Mélanie Turgeon souhaite voir Éric Guay sur le podium olympique dans un an en Corée, mais peu importe qu'il y parvienne ou non, il sera toujours un grand champion, a-t-elle commenté. Vous trouverez ça dans le Journal de Montréal sous la plume de Pierre Durocher. Éric Guay me rappelle le skieur Didier Kuch. C'est le commentaire de Mélanie Turgeon. On passe au hockey maintenant, en restant dans les sports d'hiver, bien sûr. Claude Julien, l'entraîneur, remercie la ville de Boston. C'est dans les colonnes de l'agence QMI. L'ancien entraîneur-chef des Bruins de Boston, Claude Julien, s'est manifesté publiquement pour la première fois depuis son congédiement annoncé il y a quelques jours. L'homme de 56 ans a diffusé un communiqué jeudi avant midi afin de remercier l'organisation des Bruins pour ses 10 années passées à la barre du club. Claude Julien a mené sa troupe vers la conquête de la Coupe Stanley en 2011, ce qui représente à ses yeux un souvenir inestimable. En quittant cette organisation, ce qui me rend le plus heureux et le plus fier, c'est d'avoir fait partie de la formation ayant ramené la Coupe à Boston pour une première fois en 39 ans, a-t-il dit. Le chemin parcouru et les célébrations qui ont suivi avec les joueurs, leurs familles, les membres du personnel et les partisans ont amené des moments que je n'oublierai jamais. Je ne peux terminer cette lettre sans dire merci aux amateurs des Bruins qui ont rendu ces années si valorisantes. Votre dévouement, votre indéniable passion, votre énergie et votre support font de Boston la meilleure ville de sport au monde. Ça, c'est le commentaire de Claude Julien, donc à l'issue de son congédiement. Donc, à l'évidence, il n'est pas amer du tout. Et on peut ajouter que de l'avis de nombreux observateurs, il va se trouver du travail très rapidement. C'est un excellent entraîneur. Il a une longue carrière derrière lui. Donc, à la barre des Bruins, ce franco-ontarien a remporté la Coupe Stanley. On le disait, il avait aussi remporté le trophée Jack Adams en 2008-2009. Il revendique 538 victoires en 997 matchs de saison régulière dans la Ligue nationale de hockey. C'est une très belle fiche. Et toujours à propos de Claude Julien, oui, qui a été congédié par les Bruins il y a quelques jours, un commentaire de Bertrand Raymond dans le portail RDS.ca. Bertrand Raymond, c'est un analyste, un commentateur vétéran du réseau RDS et il conseille à Claude Julien de rester près du téléphone. Le téléphone va bientôt sonner avec de nouvelles offres de coaching dans la Ligue nationale de hockey. Donc, je vous lis quelques lignes de cette chronique de Bertrand Raymond. Il y a des entraîneurs qu'on a déjà sortis de la ville à grands coups de pied au derrière. Claude Julien n'appartient pas à cette catégorie. On l'aimait bien à Boston, malgré ses 2 dernières exclusions de justesse des séries éliminatoires et malgré le fait que les Bruins soient menacés de subir le même sort ce printemps. Au TD Garden, il faisait partie des meubles, sans être toutefois un membre de la famille. Pourtant, on était bien heureux qu'il soit disponible quand on s'est débarrassé de Dave Lewis après une seule saison désastreuse il y a de cela une décennie. C'est la troisième fois de sa carrière professionnelle que Claude Julien est remercié. Chaque fois, il a fait ses valises en dépit d'un dossier gagnant. Même si la tenue des Bruins cette saison a fourni certains griefs à la direction de l'équipe pour apporter ce changement, il faut reconnaître que Claude Julien a été, et de loin, le meilleur entraîneur que les Bruins ont eu au cours des 17 dernières années. Le dernier dans sa classe avait été Pat Burns. Malheureusement, quand on travaille aussi longtemps avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ce n'est pas une Coupe Stanley, deux présences en finale et un trophée Jack Adams qui peuvent vous sauver la peau. Pourtant, Claude Julien était devenu il y a quelques mois le plus grand gagnant dans l'histoire de l'équipe des Bruins après avoir éclipsé le record d'Art Ross, un ancien entraîneur. Son congédiement a rendu furieux une bonne part des amateurs de Boston, et ce pour deux raisons. Claude Julien n'est pas celui qu'il tienne responsable des insuccès actuels de l'équipe des Bruins. Les partisans s'en sont pris à la direction, en fait, directement dans les médias sociaux, parce que les partisans estiment que la direction a été fautive, particulièrement en tenant le point de presse annonçant le départ de Claude Julien durant la victoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc, ils ont choisi un moment lorsque personne ne prêtait attention, ne portait attention pour annoncer le départ de Claude Julien. Alors, cette analyse de Bertrand Raymond dans le portail RDS se poursuit sur plusieurs paragraphes. Je vous la recommande. C'est intitulé « Reste près du téléphone, Claude ». Alors, on reverra Claude Julien certainement à la barre d'une nouvelle équipe. On disait dans d'autres médias concurrents sur la presse que l'équipe de Las Vegas, la nouvelle équipe de la LNH, se cherche un entraîneur actuellement. Donc, peut-être qu'elle voudra embaucher Claude Julien. C'est à suivre. On parle de tennis à présent dans cette portion sportive de l'émission. Le Canada a défait le Paraguay 3-0 en conclusion du tournoi à la ronde du groupe 1. C'est rapporté par Sport. Les joueuses de tennis canadiennes ont accédé à la finale du groupe 1 de la zone des Amériques de la Coupe Fed il y a quelques jours, après s'être imposé 3-0 contre le Paraguay à Metepec au Mexique. Vous trouverez cette nouvelle dans le portail RDS. Même si les joueuses paraguayennes étaient les favorites sur papier en raison de leur expérience et de leur classement à la WTA, nous savions que nos joueuses étaient capables de vaincre cette équipe, a commenté Sylvain Bruno, capitaine de l'équipe canadienne. Les filles ont joué de l'excellent tennis, je ne pouvais pas en demander davantage. Voilà qui complète cette revue de presse sportive dans Sport et Santé Magazine. Merci d'être avec nous. On va écouter l'artiste Laurence Nerbonne avec une pièce intitulée « Nos cœurs ». Au retour, deux nouvelles chroniques de Marie-Hélène Bourret. Restez à l'écoute.
Si on se parle pour vrai, que nos masques tombaient, que le bas arrêterait. Si on se disait tout haut, si on jouait moins seul pour suivre le tempo. Même si le doute s'est monté, que la route a changé, si mon cœur est en panne, prends-moi dans tes bras. Que nos cœurs battent ensemble, pour vrai, que le feu se changera en vrai, on sera des forgeurs, le sel. Que nos cœurs battent ensemble, pour vrai, que le feu se changera en vrai, on sera des forgeurs, le sel. En vrai, on sort des forgerons, le sel.
Sport et Santé Magazine se poursuit. Merci d'être à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale. Vous êtes toujours dans la portion sport de l'émission et je retrouve ma fidèle collaboratrice Marie-Hélène Bourret. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour tout le monde.
Alors, on parle d'une dynastie aujourd'hui. Harvey, père et fils, c'est fondeur de légende.
Oh oui, c'est pas un garage père et fils.
Non, non, non. C'est pas mécanique générale.
Non, non, effectivement. Ce sont des athlètes. Pierre, le papa, donc, c'est un Rimouskois qui est né en 1957. Et il a pratiqué le cyclisme sur route et le ski de fond. Alors, je pense que c'est assurément l'athlète le plus complet de l'histoire du Québec, pour ne pas dire du Canada.
Je croyais que c'était surtout un athlète du ski de fond.
Oui, ben c'est parce qu'il a participé à plusieurs types de compétitions, okay. C'est ça. Alors, il était aussi aux Jeux olympiques d'hiver de Sarajevo et de Calgary. Et les membres de l'équipe canadienne qui devaient se rendre à Moscou en 1980, on le sait, il y a eu un boycott. Là,
donc, c'est un genre de Clara Hughes polyvalent, quoi. Clara Hughes avait performé en cyclisme et en ski de fond, je crois, sauf erreur.
C'était pas genre triathlon, décathlon, oui. Quelque chose comme ça pour elle?
Ouais. Oui, oui, c'est ça. Alors, polyvalente, en tout cas.
C'est ça. Alors, il commence sa carrière de cycliste en 1974. L'année suivante, il remporte le Tour de l'Abitibi. Et il fut champion du Québec sur route, champion canadien en 76. Il termine 24e de l'épreuve individuelle sur route aux Jeux olympiques de Montréal. Mmh. Au jeu du Commonwealth d'Edmonton en 1978, il a la médaille d'argent de la course sur route et aux Jeux panaméricains de San Juan en 1979, il récolte l'or au 100 km contre la montre par équipe.
Wow.
Par équipe, par exemple, 100 km.
D'accord, avec la collaboration de ses collègues.
Alors, il domine la scène canadienne comme fondeur, comme jamais personne avant lui. Et c'est là qu'on le voit surtout comme étant un fondeur parce
oui.
qu'il est bon.
Moi, je l'associe à l'hiver, ouais. Au ski de fond.
Les 10 participations aux championnats nationaux, il remporte 31 médailles, 22 d'or, 5 d'argent, 4 de bronze. En 87, il devient le premier Canadien à gagner une épreuve de la Coupe du monde, le 20 km de Falun en Suède, et il récidive l'année suivante. En 88, il finit le premier à la centième édition du 50 km d'Omenkollen. Je ne dis pas avec l'accent, de Norvège. Et au cours, peut-être Holmenkollen. Au cours de sa carrière,
c'est mieux,
hein? Il remporte 3 épreuves de la Coupe du monde et fut dans les 15 premiers à ces occasions. Alors, il fut intronisé au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec en 91. Il est membre du Temple de la renommée du ski canadien en 92, du Temple de la renommée du cyclisme du Québec en 89 et du Temple de la renommée olympique du Canada en 2006.
Wow.
Alors, il dit lui-même qu'aux Jeux olympiques de Montréal en 76, il avait 19 ans. Il était le plus jeune de l'équipe canadienne. Mm. Au printemps 76, on l'avait invité à un camp d'entraînement en Floride dans le cadre du programme Mission Québec 76. Et là, ce programme-là, c'était dans le but d'accroître le nombre d'athlètes québécois dans l'équipe olympique canadienne en vue des Jeux olympiques de Montréal.
D'accord.
Alors déjà, au tout début de sa carrière, là, il a été vu comme étant
un champion. Potentiel.
Il a abandonné le cyclisme après la déception du boycott des Jeux de Moscou en 1980 pour se concentrer sur le ski de fond. Alors, ce qu'il disait...
Il visait Lake Placid, peut-être.
Éventuellement. Ce qu'il disait, c'est que on pratique, on fait des efforts, on se mind, comme on dit en bon québécois.
On se prépare mentalement.
On se prépare mentalement pour un jeu olympique et là, pfff.
Oui.
Et c'est comme
une politique internationale.
C'est presque une dépression qui s'ensuit parce que l'adrénaline, et c'est vraiment, quand on connaît un peu la façon dont les athlètes fonctionnent, moi-même, je ne le fais pas, mais je sais comment ils font, c'est c'est comme s'ils construisent...
Un récit. Une progression.
Une progression, et ils se jouent des scénarios, ils deviennent obsédés, et la chimie du cerveau change.
Oui.
Et tout d'un coup,
c'est
comme une dépression postpartum.
Ouais.
C'est comme, boum, tout d'un coup, tout change. Et c'est là, il s'est dit, non, moi, c'est fini. Et c'est là où il s'est vraiment concentré, là, après 1980.
Oui, nouveau souffle, nouvelle discipline.
Oui.
Et il a fait plusieurs années, il s'est vraiment illustré aussi dans ce sport d'hiver-là pour le Canada.
Alors, il s'est dit, bon, ben pourquoi pas?
Que donc, c'est à ce moment-là vraiment qu'il a pivoté vers le ski.
Ben, c'est quelques années plus tard, en fait, où il s'est dit, bon, ben écoute, je vais essayer de me recycler, comme on dit. Okay.
C'est mieux que de tomber juste, de persister dans la dépression et de croire qu'on est dans une impasse sans issue.
Ouais.
Il a réussi à se sortir de là. Peut-être un mot sur Calgary en terminant?
Oui, alors ce qu'il disait sur Calgary, parce que ça, ces derniers trucs-là, c'est vraiment son expérience à lui. Là. Il dit, il y a aussi les Jeux de Calgary, ici je le cite, « J'étais au meilleur de ma forme et d'être devancé par des adversaires qui n'étaient pas très propres, ça fait mal. » Et dire que quelques semaines plus tard, je les ai tous vaincus dans les épreuves de la Coupe du monde en Suède et en Norvège, alors qu'on se battait à force égale.
Mmh.
Alors, on voit que c'est un vrai sportif qui n'a pas utilisé, en fait, on ne le saura jamais, mais il était vraiment sportif de la vieille garde, là, où il ne voulait pas. Et j'ai une liste incroyable de dates ici depuis 1971, ses premiers Jeux. Et on dit 2017, retraite, point d'interrogation. Ah. Il est pas pressé. Mais il ne sprint pas. Hein? Il se rapproche de sa retraite, mais il ne sprint pas pour y arriver.
Pierre Harvé, quel parcours. Et dans quelques instants, on parle du fils. Restez à l'écoute.
Oui, comme tu disais, c'est la dynastie.
Voilà. Nous sommes de retour. Rebonjour Marie-Hélène.
Rebonjour.
Alors, tel père, tel fils.
Tel père, tel fils, absolument. On parle de Alex Harvey, qui est né en 1988. Il a donc 29 ans maintenant.
Mm-hmm. Fils de Pierre.
Fils de Pierre, né à Saint-Férol-des-Neiges, alors dans le coin de Québec.
Ben, ça tombe bien pour un fondeur.
Absolument, dans la neige. Mm. Hein? Alors, il a découvert le ski de fond où il avait 3 ans. Son père, donc, avait pris part à 4 éditions des Jeux olympiques, 2 de ski de fond et 2 en cyclisme.
Mm-hmm.
Alors, lors des Jeux de Vancouver de 2010, Alex a porté le nombre de participations aux Jeux olympiques de la famille Harvé à 5. Alex allait avoir contribué aux meilleurs résultats aux Jeux olympiques d'une équipe de skieurs de fond canadien en terminant au 4e échelon du sprint par équipe avec Devon Kershaw. Les Jeux de Vancouver ont servi de tremplin pour les podiums de la scène internationale. Lors des championnats du monde de 2011, Harvey et Kershaw sont passés à l'histoire en remportant la médaille d'or du sprint par équipe. Ils sont ainsi devenus les premiers athlètes masculins du Canada à monter sur le podium des championnats du monde de ski de fond. 2011-2012, Harvey a connu, donc toujours le fils, a connu sa meilleure saison en Coupe du monde. Il avait terminé l'année au 6e rang du classement général. Il a obtenu sa première victoire en Coupe du monde sur le même parcours où son père avait lui aussi récolté sa première victoire en Coupe du monde 25 ans auparavant. En 2013, il a remporté la médaille de bronze du sprint en style classique, ce qui a fait de lui le premier fondeur canadien masculin du Canada à remporter une médaille lors d'une épreuve individuelle des championnats de ski de fond de la FIS.
Mm-hmm.
Il connaît aussi du succès sur les scènes internationales. Quelques semaines après son triomphe au championnat du monde en compagnie de Kershaw, il est devenu le premier Canadien à remporter l'or au championnat du monde des moins de 23 ans en terminant en tête de poursuite. 4 ans plus tôt, il montait sur le podium des championnats du monde junior en décrochant le bronze aux 10 km et à la poursuite sur 20 km. En 2008, il est devenu le seul Canadien à remporter 3 médailles des championnats du monde junior lorsqu'il a ajouté une médaille d'argent aux 10 km de sa collection. Alors, fait saillant, champion du monde de sprint par équipe 2011, médaillé de bronze du sprint de 2013, champion du monde de la poursuite sur 30 km chez les moins de 23 ans en 2011, médaillé d'argent des championnats du monde junior 2008, médaillé de bronze des championnats du monde junior 10 km et poursuite 20 km.
Quel palmarès! Donc, à surveiller ce jeune Alex Harvey, fils de Pierre, aux Jeux olympiques d'hiver de Corée l'année prochaine en 2018. Un dernier mot sur Alex?
Ben, je pense qu'il est vraiment le digne fils de son père. Je ne crois pas qu'il aille en vélo. Bon, on l'a vu tantôt, le vélo, ça a été comme presque une erreur de parcours, en fait.
Pour son père.
Mais pour lui, je pense qu'il va rester dans le ski de fond. C'est vraiment sa force.
Oui. Je l'ai vu en interview, Alex, c'est quelqu'un d'inspiré, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné, et je pense aussi qu'il suit un petit peu la ligne propre.
Ouais.
De son papa.
Ouais.
Donc pas de drogue, pas de dopage, évidemment. On n'est pas dans le secret des dieux,
non.
Mais on pense que justement il a adopté cette approche de probité.
Ouais.
Alex Harvey, rappelle-moi le nom du village où il est né.
Saint-Féréol-les-Neiges.
C'est dans quelle région ça?
C'est sur la côte nord-ouest, si tu veux, de Québec. Tu sors de Québec, tu t'en vas vers l'île d'Orléans.
Oui.
Puis tu tournes à gauche, puis tu t'en vas à Saint-Féréol.
Bon, un nom prédestiné. Merci Marie-Hélène.
Un plaisir.
Bartender, ce soir fais-moi oublier toutes les choses qui m'ont fait l'aimer. Je reste ici et je vais boire jusqu'à ce qu'elle quitte ma mémoire. J'ai un passé que j'ai besoin d'oublier. Elle m'a quitté quelques jours passés et depuis je ne comprends pas qu'après tout ce qu'on a fait ensemble, que son cœur est devenu si froid. Donne-moi ce que tu as de mieux pour enlever l'image devant mes yeux de son beau sourire qui maintenant me fait souffrir. Ce soir, fais-moi oublier toutes les choses qui m'ont fait l'aimer. Je reste ici et je vais boire jusqu'à ce qu'elle quitte ma mémoire. J'ai un passé que j'ai besoin d'oublier. J'ai un passé que j'ai besoin d'oublier.
Deuxième partie de Sport et Santé Magazine. Merci d'être à l'écoute encore cette semaine. Nous venons d'entendre l'auteur, compositeur, interprète Daniel Gauguin. Et c'est parti pour la revue de presse des actualités santé et mieux-être. On est dans la partie santé de l'émission à présent. On commence avec une nouvelle qui nous arrive de la presse canadienne. Les Canadiens nuisent à leur santé en buvant trop de boissons sucrées. Une étude menée à l'Université de Waterloo en Ontario signale qu'en raison d'une trop forte consommation de boissons sucrées, les Canadiens risquent des conséquences dévastatrices pour leur santé. Cette étude de l'Université de Waterloo prévoit que d'ici 25 ans, les boissons sucrées devraient provoquer des maladies entraînant plus de 63 000 décès et coûter plus de 50 milliards au système de santé canadien. La recherche estime que la consommation de boissons sucrées au Canada sera liée à plus de 3 millions de cas d'obésité, à près de 1 million de cas de diabète de type 2, à près de 300 000 cas de cardiopathie ischémique et à plus plus de 100 000 cas de cancer et finalement à près de 45 000 accidents vasculaires cérébraux AVC. En 2015, les Canadiens ont acheté en moyenne 444 millilitres de boissons sucrées chacun par jour. Cette consommation était de 578 millilitres chez les jeunes, donc un taux préoccupant, encore plus préoccupant chez les jeunes, ce qui représente 16 cuillères à thé de sucre, une quantité qui dépasse largement l'apport maximal quotidien recommandé. Les chercheurs constatent que les ventes de boissons gazeuses ont diminué au cours des dernières années, mais qu'il y a eu une forte augmentation des ventes de produits sucrés tels que les boissons énergisantes, les cafés et thés sucrés, les eaux aromatisées, les yogourts à boire et les boissons pour sportifs. On parle de tabagisme à présent, une nouvelle qui est parue dans le fil de l'agence France Presse. Tabac, la fumée imprégnée dans les objets, nuirait à la santé. Sortir pour fumer une cigarette pourrait s'avérer insuffisant pour protéger la santé des non-fumeurs, selon une étude effectuée chez des souris montrant qu'une exposition indirecte à la fumée du tabac, c'est-à-dire par ses résidus laissés sur les objets, serait elle aussi nocive. On parle d'exposition indirecte pour désigner le contact avec les résidus laissés par la fumée de tabac sur les meubles, les rideaux ou les murs, par exemple. Elle est différente, cette fumée, du tabagisme passif qui consiste à inhaler de manière involontaire la fumée secondaire dégagée par un ou plusieurs fumeurs et dont les dangers sont déjà bien connus. Dans une étude publiée dans la revue Scientific Reports, des chercheurs de l'Université de Berkeley en Californie ont montré que des souriceaux nouveau-nés exposés à des vêtements traités avec de la fumée de cigarette pendant 3 semaines présentaient un plus faible poids que ceux qui n'avaient pas été exposés. Les nouveau-nés comme les souris adultes ont également présenté des modifications de leur composition sanguine associées à des réactions inflammatoires ou allergiques. Donc la fumée imprégnée dans les objets nuirait à la santé. Une nouvelle inquiétante qui paraît elle aussi dans le fil de l'agence France Presse, on nous annonce qu'une souche du paludisme ou la malaria si vous préférez, est résistante et progresse en Asie. C'est une nouvelle qui nous arrive d'Asie du Sud-Est, plus spécifiquement de Thaïlande. Une forme de paludisme résistant au traitement standard est en passe de devenir majoritaire dans certaines régions du Mékong, ont annoncé jeudi des chercheurs mettant en garde contre sa propagation dans d'autres zones comme l'Inde ou l'Afrique. Cette maladie, due à des parasites transmis à l'homme par des piqûres d'insectes, a touché 214 millions de personnes en 2015 et fait 438 000 morts, surtout en Afrique subsaharienne, chez les jeunes enfants. Le traitement standard est à l'heure actuelle l'artémisinine, mise au point dans les années 70 par la chercheuse chinoise Tu Youyou, associée à d'autres traitements antipaludéens. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont suivi de près la propagation d'une souche de paludisme résistante à ce médicament clé, selon une étude publiée il y a quelques jours dans The Lancet. Détectée pour la première fois dans l'ouest du Cambodge en 2007, cette forme de paludisme résistante s'est depuis propagée dans le nord-est de la Thaïlande, le sud du Laos et l'est de la Birmanie. Ce qui se passe, c'est qu'un type de parasite apparu dans l'ouest du Cambodge s'est débarrassé des autres et s'est propagé, a expliqué à l'AFP Nicholas White de l'unité de recherche en médecine tropicale de l'université Mahidol à Bangkok en Thaïlande. C'est Nicholas White en effet qui a mené ses recherches sur cette nouvelle souche. Pour les spécialistes des maladies tropicales, l'émergence de cette nouvelle souche évoque un précédent historique inquiétant. Deux vagues de malaria résistantes au traitement standard étaient apparues dans les années 50 et 60 en Asie du Sud-Est, puis s'étaient répandues en Inde et en Afrique où elles avaient fauché des millions de vies. Donc si vous voulez toutes les infos sur ce sujet, on peut commencer par cette nouvelle de l'agence France Presse, une souche de paludisme résistant progresse en Asie. La pollution atmosphérique serait liée à la démence chez les femmes âgées. C'est une nouvelle qui paraît dans la presse canadienne. La pollution atmosphérique, comme celle générée par les usines et les automobiles, semble grandement augmenter le risque de démence, y compris le risque de maladie d'Alzheimer, selon des chercheurs californiens. Les chercheurs de l'Université de Californie du Sud, USC, ont constaté que des femmes qui habitent des secteurs où la concentration de particules ultra-fines surpasse les normes de l'Agence américaine de protection de l'environnement augmente de 81 % le risque de déclin cognitif global et de 92 % le risque de démence, incluant la maladie d'Alzheimer. Si les conclusions s'appliquent à la population en général, la pollution atmosphérique pourrait être responsable de 21 % des cas de démence selon cette étude. L'effet néfaste est particulièrement marqué chez les femmes porteuses du gène APOE4 qui augmente le risque de souffrir de la maladie d'Alzheimer. Cette nouvelle paraît dans le fil de la presse canadienne. La pollution atmosphérique serait liée à la démence chez les femmes âgées. Et un article encourageant à propos de la marche dans le journal La Presse sous la plume de la journaliste Isabelle Audet. Marcher, c'est du sport. En effet, on dénigre souvent la marche qui ne serait pas, selon plusieurs, un sport réellement. Mais cet article démontre, ou plutôt met de l'avant, les qualités et la légitimité de la marche comme sport. Elle écrit « Aux côtés de la course et d'autres activités physiques plus compétitives, la marche fait parfois pâle figure. Mettre un pied devant l'autre, est-ce vraiment du sport ?» Incontestablement, assure experts et adeptes de la marche. Une étude publiée en 2014 dans le Journal of the American College of Cardiology a détaillé les différences entre les effets physiques de la marche et de la course à pied. Or, il semble que 15 minutes de marche apportent les mêmes bienfaits physiques qu'une course de 5 minutes. De même, 105 minutes de marche équivalent à environ 25 minutes de course. Donc, c'est encourageant pour les gens qui aiment pratiquer la marche, particulièrement chez les personnes du troisième âge, par exemple. Donc, la marche est un sport à juste titre. L'activité physique ne permettrait pas de contrôler le poids. Ça étonnera plusieurs auditeurs. C'est une nouvelle qui paraît dans le fil de la presse canadienne. L'activité physique ne permet pas de contrôler le poids, affirme une nouvelle étude américaine. Cette conclusion étonnante découle de l'étude de jeunes adultes provenant de 5 pays par des chercheurs de l'Université de Loyola, près de Chicago. Des études antérieures avaient constaté que les sujets interrogés au sujet de leur niveau d'activité physique avaient tendance à grandement l'exagérer. Les participants à cette étude ont donc porté un accéléromètre à la ceinture pendant une semaine, ce qui a permis de mesurer de manière objective leur activité physique. L'évolution de leur poids a été mesurée après un an, puis après deux ans. Les chercheurs ont constaté que les participants, peu importe leur pays d'origine, étaient plus susceptibles de prendre du poids s'ils respectaient les recommandations des autorités américaines de santé publique, à savoir 2,5 heures d'activité physique modérée par semaine. L'activité physique demeure associée à plusieurs bienfaits pour la santé, notamment une réduction du risque des maladies cardiovasculaires, du diabète et de cancer. L'activité physique améliore aussi la santé mentale et les gens qui bougent ont tendance à être plus heureux et à vivre plus longtemps. Même si l'activité physique brûle des calories, elle augmente aussi l'appétit. Les gens pourront alors compenser en mangeant plus ou en étant moins actifs le reste de la journée. Les conclusions de cette étude sont publiées dans le journal scientifique PeerG. Donc, le titre de cet article, encore une fois, « L'activité physique ne permettrait pas de contrôler le poids ». Et voilà qui complète ce tour d'horizon des nouvelles en santé et mieux-être. On fait un petit intermède musical de quelques instants. De l'autre côté, je retrouve notre chroniqueuse Julie Gagnon qui nous renseigne cette semaine sur les services de santé que délègue le gouvernement de Colombie-Britannique à une compagnie qui s'appelle Maximus. C'est une compagnie américaine, un sujet fascinant et méconnu. Restez à l'écoute. Je retrouve Julie Gagnon dans le studio 1 de CILS. Bonjour Julie.
Bonjour Alexis.
Alors, un sujet qui touche à la santé publique aujourd'hui. On parle du régime d'assurance maladie auquel tous les Canadiens ont droit, y compris ici en Colombie-Britannique. Et il y a une particularité ici dans notre province, c'est que notre régime est administré en partie par une entreprise américaine privée, une entreprise privée américaine cotée en bourse qui s'appelle Maximus et c'est depuis 2004. Alors, on a des nouvelles récentes de cette entreprise. On va essayer de faire le topo sur la relation entre cette entreprise et notre gouvernement provincial.
Oui, absolument, Alexis, parce que c'est un article du TAI qui est paru en décembre dernier qui nous alarmait un peu par rapport à cette entente de 10 ans qui avait été conclue entre Maximus et le gouvernement de la Colombie-Britannique.
Alors, cette entreprise privée cotée en bourse s'appelle Maximus.
Oui.
Et donc, c'est déjà un nom...
oui.
pas forcément rassurant, un nom un peu mégalo.
Oui,
mais passons.
Peu. En fait, c'est ça. L'entente devait être de 324 millions fixes. C'est bien important de faire le point sur le fixe parce que ce montant-là ne devait pas bouger dans les 10 ans.
En 2004, le montant de l'entente était de 324 millions de dollars. Et que devait faire Maximus en contrepartie?
Maximus devait en fait s'assurer d'implanter des projets majeurs comme le projet PharmaCare,
oui.
qu'on appelle le régime de médicaments sur Internet. Il devait aussi livrer la BC Service Card, la nouvelle carte d'assurance maladie qui combine l'assurance maladie et le permis de conduire.
À l'époque, oui.
Oui, c'est ça. Et donc, devait s'assurer de plusieurs projets, dont l'administration du programme MSP, le service à la clientèle, par exemple.
Le service à la clientèle du régime d'assurance maladie de
oui.
Colombie-Britannique.
Okay. Exactement. Donc, devait répondre au téléphone, etc.
Donc, quand on appelle à ce service, c'est une personne peut-être en Virginie ou en
de
Inde.
De Maximus, qui nous répond.
Une personne de Maximus, oui.
Oui, exactement. ce qui est un peu étrange parce qu'on est en Colombie-Britannique.
Oui.
Donc, on s'attendrait à ce que ce soit quelqu'un du gouvernement, mais non, c'est quelqu'un de chez Maximus qui nous répond. Donc, cette entente-là couvrait un paquet d'éléments
oui.
et ça devait être de 324 millions. Et finalement, ce que le TAI nous indique,
est-ce qu'ils se sont bien acquittés de leur tâche?
Premièrement, il y a eu beaucoup de plaintes au départ, dans le début du projet. Beaucoup de plaintes ont été formulées parce que le temps d'attente au téléphone était 5 fois plus plus long que ce que prévoyait l'entente avec Maximus. Donc, il y a eu beaucoup de plaintes à ce moment-là. Des amendes ont été formulées.
C'est peut-être parce que les actionnaires demandaient que la compagnie réduise ses dépenses. C'est une supposition.
C'est une supposition, oui, exactement, de faire plus avec moins.
Exact.
Parce que ce 324 millions-là a été octroyé. C'est le plus bas soumissionnaire hein, qui a été
voilà.
choisi. Donc, c'est un très petit montant pour ce qui était supposé fournir comme un...
C'était ambitieux.
Ce qu'on apprend, en fait, c'est que non seulement les débuts de l'entente ont été houleux avec les relations avec les clients, avec les ententes aussi qui n'étaient pas rencontrées, mais les attentes qui n'étaient pas rencontrées, mais il y a aussi un dépassement de coûts de 50 %. Et c'est ce qu'on apprend avec l'article du TAI, c'est que Maximus a facturé 489 millions. En contrat, alors que l'entente était de 324 millions fixes.
Mm-hmm.
Donc, c'est très alarmant tout ça parce que c'est un dépassement de coût qui est énorme,
oui.
Qui a coûté cher aux contribuables de la Colombie-Britannique, qu'on n'entend pas vraiment parler, à part dans le TAI et dans le Huffington Post.
De 2013,
de
oui.
De 2013,
très
donc c'est très rare qu'on en entend parler.
Les articles sur ce sujet, oui.
Et pourtant, ce dépassement de coût-là est très important pour la Colombie-Britannique.
Oui. Donc, est-ce qu'on a épargné au bout du compte? Parce que c'est ça le but, au fond, au début du processus. La Colombie-Britannique espérait fournir des services de qualité à coût moindre.
Absolument.
En sous-contractant auprès de cette multinationale qui est présente dans plusieurs pays en passant. Est-ce qu'on a réalisé des économies?
Ce que le ministère de la Santé nous indique, c'est qu'ils ne savent pas à quel point on aurait pu faire des économies en faisant le projet à l'interne. Souvent, c'est ça l'avantage du partenariat avec le privé, c'est d'essayer de sauver des coûts parce qu'on croit que à l'interne, ça coûterait plus cher. Et le ministère de la Santé, la porte-parole, Laurie Cascaden, disait que, justement, tout le monde était très, très, très content de l'entente, que les dépassements de coûts et faisait du sens parce que il représentait des changements et du risque que Maximus ont pris durant la réalisation de l'entente.
Donc autrement dit, il y a eu des petits imprévus, c'est pas grave,
c'est
50 % de plus. C'est plus de 150 millions là à vue de nez.
Absolument.
Aux frais de Bibi le contribuable.
Oui.
On avait déjà en amont, il y a très longtemps, un premier article du TAI en 2009 qui tirait la sonnette d'alarme.
Oui.
Après ça, le Huffington Post a lui aussi essayé d'éclairer ce dossier épineux en 2013. Mm-hmm. Et là, c'est tout récent, décembre dernier, juste avant les fêtes, le Taillé est revenu avec un autre article de fond sur la question.
Oui.
Alors, bon... on dirait qu'on continue avec Maximus malgré les problèmes.
Absolument. On a renoué une entente en 2013 pour jusqu'en 2020 avec une entente de 264,3 millions. Même si les primes avaient augmenté, même si le début de l'entente avec Maximus avait été houleux, tout ce qu'on donne l'impression au ministère de la Santé et même Christy Clark donne l'impression qu'elle est très satisfaite avec Maximus. Elle veut poursuivre dans cette lignée. C'est pourquoi elle a renouvelé le contrat pour justement encore offrir de l'assistance téléphonique, la maintenance du site Internet, le support technologique, en fait, du programme.
Oui,
donc, on renouvelle cette entente-là encore jusqu'en 2020 pour à peu près les mêmes services. Donc, tout indique qu'au gouvernement, tout est beau, tout est parfait, tout le monde est content, alors que il y a une augmentation de coûts quand même.
Intéressant, intéressant. Donc, on est en année électorale, il y aura une élection début mai. Mm-hmm. Je me demande si les journalistes vont soulever cette question-là auprès du gouvernement sortant.
Absolument, parce que on devra attendre l'année financière en juillet 2016, par contre, pour avoir les détails des paiements, les montants qu'on aura donnés à Maximus pour vraiment avoir un éclairage
complet. Oui.
Mais espérons... que durant la campagne électorale, ça sorte.
Et là, c'est peut-être le cynique en moi, mais je ne peux pas m'empêcher de songer que Maximus a versé des dons au parti régnant, le parti libéral en l'occurrence. On sait que on a parlé du système de financement politique ici en Colombie-Britannique récemment. Ça était dans les pages du New York Times. Alors, est-ce que Maximus est un donateur? Est-ce que ça a influé sur la décision du gouvernement? On espère que davantage de lumière sera apportée, plus de transparence pour notre système de santé qui nous coûte cher finalement.
Absolument. Et on parlait d'éclairage tantôt et de transparence, mais tu pointais d'ailleurs que hors d'onde que Maximus pouvait avoir toutes nos informations de dossier médical.
Oui.
Ce qui est quand même alarmant aussi dans un monde où l'information va vite, où justement il y a des hackers un peu partout qui réussissent à mettre la main sur ces bases de données-là. Mm-hmm. C'est quand même inquiétant.
Et on parle de dossiers médicaux. Donc, c'est très sensible. Aucun gouvernement n'apprécie que des compagnies étrangères ayant des serveurs hébergés à l'étranger disposent d'informations sur aussi sensibles que les dossiers médicaux.
C'est très... Oui, ça a beaucoup de pouvoir, en fait, un dossier médical.
N'est-ce pas? Alors, énormément de questions. Faisons une petite bibliographie. Alors, il y a cet article de 2013 que j'ai sous les yeux. Outsourced BC MSP Pharmacare Contracts Not Working. Ça, c'était dans le Huffington Post en 2013. Vous trouverez ça aisément avec votre moteur de recherche préféré. Et du côté du Taillé, Julie?
Du Taillé, on a le Gov Payment to Maximus Balloon en 2009.
Oui.
Et on a aussi...
plus tard, en décembre 2016, c'est tout récent, un article qui vient de sortir sur le portail du Taillé.
MSP Pharmacare Outsourcing Costs. 50% over fixed fee.
Voilà, augmentation de 50% par rapport aux 324 millions initiales. Merci beaucoup, Julie Gagnon.
Merci, Alexis.
À bientôt.
Encore merci à Julie pour cet éclairage sur les liens d'affaires entre la province de Colombie-Britannique et la multinationale Maximus. C'est déjà tout pour Sport et Santé Magazine. Merci de nous avoir suivis dans cette heure d'information. C'est Alexis Gagnon au micro. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. On se laisse sur une pièce de Daniel Bélanger intitulée « Il y a tant à faire ». À très bientôt. Il faut
pourrait dire. Le vague à l'âme, s'il naviguait, il s'aborderait son navire. Il faut marcher, il y a tant à faire. Il faut rouler, m'acharner, 100 fois tourner, miner la terre. Il faut tenir, il faut bâtir sur l'inconnu. Parier sa chemise qu'on gagnera au risque de finir tout nu. Les autres peuvent penser le contraire. Il faut rouler, s'acharner, 100 fois tourner.
Il y a tant à faire, et ce n'est pas ridicule. C'est comme si c'était facile, s'immiscer dans la lumière d'une longue nuit de l'hiver. De manière professionnelle, puis je le retrouve tôt ou tard dans le magistral de l'univers. Il faut tisser, il y a tant à faire, et ce n'est pas ridicule. C'est comme si c'était facile, s'immiscer dans la lumière. Une longue nuit de l'hiver.
Et là, tu me vois au retour du printemps. Que le temps passe lent, passe lent.
Il y a tant à faire.
Brigitte Burroughs du Parlement franco-canadien du Nord et de l'Ouest. Vous écoutez CILS FM 107,9 à Victoria.
ailes fondent, si nos ailes font défaut, nous tomberons de haut. Ah, si nos ailes font défaut, mais si nos ailes tiennent, et si les nuages se défont, nous toucherons le ciel. Ah, si les nuages se défont, et si nos ailes fondent, si nos ailes font défaut, nous tomberons de haut. Ah, si nos ailes font défaut, et si nos ailes tiennent, et si les nuages se défont, nous toucherons le ciel. Ah, si les nuages se défont.
Langlois, vous écoutez CILS 107.9 FM à Victoria. votre radio communautaire.
Vous aimeriez en connaître plus sur l'histoire personnelle des grands compositeurs classiques? L'influence de la modernisation des instruments dans la musique de 1600 à aujourd'hui? Ne manquez pas Histoire classique avec Louise Alpin, diffusée 3 fois par semaine sur les ondes de CISFM.
Rendez-vous.
Rendez-vous.
Découvrez la vie culturelle de Victoria.
Discover the cultural life of Victoria. En français.
And in English.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Rendez-vous sur CILSFM et CFU Ville et de Radio de Victoria.